Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans La Voix des Songes. Nous allons poursuivre et conclure le cycle Rêves et Symboles à travers l'étude et l'analyse d'un rêve attribué à Hannibal Barca, le célèbre général carthaginois qui franchit les Alpes avec toute son armée et ses éléphants pour tenter de conquérir Rome lors de la Deuxième Guerre punique. Le récit de ce rêve nous est parvenu grâce à Cicéron, homme politique et écrivain romain, qui a vécu plus d'un siècle après son illustre prédécesseur. Il faut donc évidemment rester prudent quant à l'authenticité du récit retranscrit, surtout pour nous qui le recevons bien des siècles plus tard, après avoir été moult fois recopié et traduit. En tout cas, le récit de ce rêve nous offre un cadre suffisant pour s'intéresser aux symboles dans les rêves et aux différentes méthodes qui permettent de leur attribuer un sens. Voici donc le rêve retranscrit par Cicéron dans « De la divination ». Le rêve a lieu après la prise de Sagonte, ville située au nord de l'actuelle Valence en Espagne, alliée de Rome à l'époque, assiégée et détruite par Hannibal en 218 avant Jésus-Christ. Cet événement marque le début de la Deuxième Guerre punique. Donc, après la conquête de Sagonte, Hannibal crut en songe être appelé par Jupiter au conseil des dieux. Quand il y fut entré, Jupiter lui commanda de porter la guerre en Italie et lui adjoignit comme guide un membre du conseil, sous la conduite duquel Hannibal commença d'avancer avec son armée. Le guide, alors, lui prescrivit de ne pas regarder en arrière. Il ne put cependant longtemps y tenir et céda au désir de voir ce qui se passait derrière lui. Une grande et affreuse bête lui apparut alors, qu'enlaçait des serpents, et qui, sur son passage, renversait tout, arbres, jeunes plants, maisons. Hannibal, étonné, demanda au dieu ce qu'était que ce monstre, et le dieu lui répondit qu'il figurait la dévastation de l'Italie, puis lui recommanda d'aller de l'avant sans s'occuper de ce qui se passait derrière son dos. Tout d'abord, à la lecture du récit de Cicéron, une première remarque s'impose. Les peuples de l'Antiquité considéraient les rêves avant tout comme des phénomènes divinatoires qui permettent de rendre compte d'un lien entre le monde des dieux et le monde des hommes. D'ailleurs, le titre de l'ouvrage de Cicéron dans lequel on trouve ce rêve, et quelques autres, se nomme « De la divination ». De nos jours, on trouve encore de nombreux adeptes de cette approche prophétique des rêves. Cette conception, qui a toujours existé et qui existera probablement toujours, ne doit pas être méprisée ou moquée. C'est une manière, parmi d'autres, d'interpréter les rêves et de donner du sens au fonctionnement de l'âme humaine. Dans la perspective psychothérapeutique qui est la nôtre, nous identifions le monde des dieux à l'inconscient, où les notions de temps et d'espace n'existent pas, alors que le monde des hommes correspond davantage au conscient, instance psychique qui doit gérer en permanence nos interactions avec un monde extérieur limité et conditionné par le temps qui passe inexorablement. Ainsi, les songes, ces daimons grecs ou génies romains qui servent de messagers aux dieux durant le sommeil, sont bien entendu les rêves qui permettent à l'inconscient de communiquer avec le conscient. Le rêve, c'est l'inconscient qui parle au conscient, ce qui correspond bien à l'idée que s'en faisaient nos antiques ancêtres. La différence réside dans la manière d'interpréter ce message onirique. Prenons les clés des songes, auxquelles nous avons consacré la première émission sur le thème rêve et symbole. Il en existe de nombreuses, et je vous propose un résumé de ce que l'on peut trouver dans les ouvrages les plus intéressants. Selon les clés des songes, et on va là se limiter au symbole du serpent, le serpent donc est tout ce qui est principe vital inconscient. Il est la source de vie, le dépositaire de la sagesse la plus antique, le détenteur de l'infinie connaissance accumulée au cours des âges, et de par sa forme, il doit être également considéré comme un symbole sexuel. Si mon résumé est aussi court, c'est que les clés des songes et autres dictionnaires des rêves sont de peu d'utilité pour analyser un rêve de manière pertinente. Leurs interprétations clés en main donnent des pistes de réflexion, mais aucune clé des songes n'a donné d'interprétation claire à la situation suivante. Si un serpent monstrueux et dévastateur se trouve dans votre dos, cela signifie... Eh bien, on n'en sait rien. Les clés des songes sont évidemment limitées et ne peuvent pas rendre compte de la spécificité et de la créativité originale de chaque personne. Après les approches divinatoires et celles basées sur l'utilisation d'une clé des songes, intéressons-nous maintenant aux méthodes basées sur la reconnaissance de l'inconscient et des processus qui s'y rapportent. Il se trouve que le rêve d'Hannibal a notamment été interprété par Marie-Louise von Franz, une proche disciple de Jung, dans son ouvrage « Rêve d'hier et d'aujourd'hui ». Elle y développe une interprétation savante et pleine d'érudition remarquable, mais qui au final donne l'impression de tourner en rond et n'apporte pas grand-chose. Le plus dérangeant dans l'interprétation proposée par Marie-Louise von Franz est son manque de prudence. Aucune forme conditionnelle, aucune hypothèse d'interprétation, que des vérités absolues assénées au lecteur. Elle sait qui est Hannibal à partir d'un simple rêve et de quelques éléments biographiques qui ont traversé plus de 2000 ans d'histoire. Attention, ici ce n'est pas l'auteur que j'incrimine, mais sa méthode. En effet, il faut se souvenir que Jung, dans son recueil de conférences de 1938, La méthode d'interprétation des rêves, affirmait qu'il avait mis au point une méthode d'interprétation des rêves qui permet de se passer du rêveur. Je vous invite à consulter l'ouvrage de Marie-Louise von Franz pour constater par vous-même les ravages que peut provoquer le sentiment d'omniscience chez un praticien. Si c'est dans une perspective intellectuelle et purement universitaire, c'est certes gênant, mais les conséquences ne sont pas trop graves. Par contre, lorsque l'on a une visée psychothérapeutique, ce sentiment d'omniscience est dangereux. Un psychothérapeute qui n'a pas besoin d'écouter un patient pour comprendre qui il est, se prend en réalité pour un devin. Il n'est donc pas à sa place. La vision personnelle de Marie-Louise von Franz ne trouve pas vraiment grâce à mes yeux, bien qu'elle déploie une grande érudition, ce qui est toujours intéressant intellectuellement, mais qui n'a aucun intérêt d'un point de vue psychothérapeutique. Je vous propose donc une autre vision, plus prudente, et qui fait attention à ne pas enfermer le rêveur dans les préjugés. Si l'on considère le monde des dieux dans sa correspondance à l'inconscient, dans le rêve d'Hannibal, seul Jupiter est clairement nommé. De par la position de Jupiter dans la hiérarchie divine, on pourrait avancer que Jupiter vient symboliser une certaine image du Père dans l'inconscient, grandiose et qui préside l'assemblée des dieux. Il est à noter que le père d'Hannibal, Hamilcar, était le plus grand général carthaginois de sa génération et qu'il a beaucoup œuvré pour la grandeur de sa patrie. De plus, le père d'Hannibal a créé la dynastie des Barcides, d'où le nom d'Hannibal Barca. Barca, qui signifie la foudre en punique. C'est donc bien le père qui a fait de cet attribut de Jupiter un patronyme. On peut donc raisonnablement avancer que Jupiter symbolise ici le père dans le rêve d'Hannibal. Dans ce cas, qui peut bien être ce génie désigné par Jupiter et qui guide Hannibal? Il se trouve qu'Hannibal n'a pas fait ses armes uniquement auprès de son père, mais également auprès de son beau-frère, Hasdrubal, qui lui a succédé. On voit donc ici la filiation. Le père, Hamilcar, qui nomme Hasdrubal pour lui succéder, notamment dans la formation militaire de son fils, puis Hannibal lui succède et prend à son tour la tête de l'armée carthaginoise. Cette généalogie semble transparaître dans le rêve à travers Jupiter, le guide et Hannibal. Alors maintenant, intéressons-nous à ce monstre serpent. De par sa forme, comme nous l'avons déjà remarqué, le serpent renvoie dans le cadre de la sexualité au pénis. Mais dans le cadre de la relation au père, qui semble être au cœur de ce rêve, le serpent renvoie davantage au phallus, représentation inconsciente de la puissance d'action, aussi bien chez l'homme que chez la femme. De plus, le serpent est un animal le plus souvent terrestre, donc il représente toujours une énergie chthonienne, tellurique, titanesque. Il est le grand représentant du ça freudien, des pulsions les plus profondes, les plus bestiales, qui n'ont pas été apprivoisées. Se pourrait-il alors que ce monstre serpent symbolise une autre facette du père ? Non plus cette fois-ci un dieu grandiose et magnifique, mais un monstre destructeur et sanguinaire. Au-delà du jugement objectif de la carrière militaire du père d'Hannibal, ce que ce rêve viendrait nous apprendre réside plutôt dans l'ambiguïté affective qu'entretient chaque enfant avec ses parents, quel que soit son métier. Ambiguïté amour-haine qui se concrétise le plus souvent par une admiration sans bornes, à laquelle se superpose une méfiance, une peur, voire une terreur. Ces deux facettes du rapport aux parents reposent avant tout sur le sentiment de toute puissance dont les parents jouissent vis-à-vis de leur enfant. Un sentiment de droit de vie et de mort que l'on retrouve invariablement dans la relation entre les êtres humains et leur dieu. Il reste encore à analyser le fait que le monstre se trouve dans son dos et que son guide lui proscrit de se retourner. En général, ce qui se cache dans notre dos renvoie à notre passé et à tout ce que l'on traîne dans la vie sans le savoir. Cela peut donc renvoyer à l'héritage, parfois matériel, mais surtout psychologique, du rêveur. En tout cas, comme c'est dans notre dos et qu'on ne le voit pas, cela signifie que c'est toujours inconscient. Et cela reste inconscient, c'est-à-dire inconnu du conscient, tant que l'on ne s'est pas retourné. Se retourner pour regarder dans son dos reviendrait donc à aller voir dans l'inconscient les processus psychiques qui nous structurent, nous animent et nous poussent à agir sans que l'on sache pourquoi. Ne pas regarder, comme le lui conseille son guide, reviendrait à maintenir la chose refoulée. Se retourner, comme Hannibal le fait dans son rêve, peut être la preuve d'une levée du refoulement. Mais sa réflexion ne va pas plus loin et il poursuit son chemin qui, dans la réalité, va le mener à incarner ce monstre destructeur et dévastateur jusqu'en Italie. Face à ce genre de rêve, une question demeurera toujours. Puisque les événements décrits dans le rêve se sont produits par la suite dans la réalité, ce rêve est-il prémonitoire ? Ou bien, est-ce que ce rêve exprime un désir d'accomplissement d'un dessein inscrit dans l'inconscient du rêveur tel un codicille? Dans ce dernier cas, à quel point Hannibal a réalisé, par ses conquêtes, un désir qui au départ n'est pas le sien, mais celui d'un autre? Par exemple, celui de son père, qui avait participé à la première guerre punique et qui haïssait Rome. On peut ainsi se demander à quel point Hannibal a été libre dans ses choix de vie et à quel point il a été prisonnier d'une destinée écrite par d'autres. Difficile de répondre avec certitude à ces questions, surtout lorsque l'on ne peut pas entendre ce que le rêveur peut bien en dire. Une chose est sûre, ces questions autour de l'héritage psychologique nous animent toutes et tous. Le but n'est donc pas pour l'analyste de dire qui est la personne qu'il a en face de lui, car il ne le peut pas. Et quand bien même il aurait ce pouvoir, cela n'aurait aucun intérêt. L'analyste est avant tout là pour permettre au sujet, notamment grâce au rêve, de découvrir par lui-même et pour lui-même qui il est et ce qui est au fondement de ses propres choix de vie. Je vous laisse méditer là-dessus. À la prochaine fois, et d'ici là, faites de beaux rêves.